France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. Comme chaque vendredi, Culture Monde est en deux parties. Tout d'abord, le retour de terrain. Le journaliste Cédric Gouverneur, qui revient de Nouvelle-Zélande, nous parle des inquiétudes des Maoris qui font face à la remise en question de plusieurs mesures qui visaient à atténuer les inégalités dont ils sont victimes. Et puis, la table ronde. Nous parlons aujourd'hui de la situation dans la ville de Gaza, où plus d'un million de personnes ont été sommées d'évacuer les lieux, alors que la ville est assiégée par une opération militaire de grande envergure. Rester sous les bombes ou partir sans espoir de retour ni de lieu d'accueil digne et sûr. Comment encore imaginer l'avenir dans ces conditions? Imaginer l'avenir de la Palestine que plusieurs États s'apprêtent pourtant à reconnaître dans quelques jours. Nous en discuterons avec nos invités. Laetitia Bucaille, professeure de sociologie politique à l'INALCO. Elle publie le 15 octobre un ouvrage intitulé « Gaza, quel avenir ?» aux éditions Stock. Et Khalil Alaham, juriste, chercheur postdoctoral à l'université de Bir Zeit, une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Cédric Gouverneur.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant. Votre dernier reportage est publié dans Le Monde diplomatique de ce mois de septembre. Il nous emmène en Nouvelle-Zélande, où vous êtes allé à l'écoute des inquiétudes des Maoris, peuple autochtone de la Nouvelle-Zélande organisé en différentes tribus qu'on appelle les Iwi. Les Maoris représentent 20% de la population. Ils dénoncent depuis 2 ans la remise en question de plusieurs dispositifs et mesures dont l'objet était de lutter contre les inégalités dont ils sont victimes, car la coalition au gouvernement portée par la droite libérale et conservatrice voudrait en finir avec ce qu'elle appelle la discrimination positive. Est-ce que vous pourriez commencer, Cédric Gouverneur, par nous expliquer de quelles inégalités on parle concernant les Maoris? Elles se jouent évidemment en premier plan sur le champ économique et social.
Oui, alors il faut savoir qu'à peu près, comme vous avez dit, 20% de Maoris en Nouvelle-Zélande et 150 ans de dépossession coloniale ont abouti à une situation où les Maoris sont le plus souvent en bas de l'échelle sociale. Il y a à peu près 6% des Maoris qui ont un diplôme universitaire. Leur espérance de vie est de 7 années inférieure à celle des Pakeha. Bon, Pakeha, c'est le terme qui désigne, en Nouvelle-Zélande, c'est pas un terme péjoratif, hein, mais c'est le terme qui désigne les Néo-Zélandais non-Maoris, en langue Maori. Et les Maoris, sont à peu près 52% des détenus sont Maoris, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population. Leur taux de suicide est 3 fois plus élevé. Leur taux de chômage est 2 fois plus élevé. Et à l'échelle des revenus, en moyenne, ils gagnent 80% de ce que gagnent en moyenne les Pakeha. Et comment on arrive à cette situation? Alors, il faut savoir qu'un processus colonial à partir des années 1830 en Nouvelle-Zélande, à la fin du 19e siècle, il restait à peu près 40 000 Maoris sur une population originelle de plusieurs centaines de milliers. Et parce qu'ils avaient subi, si vous voulez, le choc épidémique, ils n'étaient pas immunisés contre les maladies portées par les Blancs. Et ils étaient en train de disparaître. Et ils sont remontés, si vous voulez, dans l'estime des Néo-Zélandais au cours de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y avait un bataillon maori, le 28e bataillon, qui s'est comporté de façon héroïque sur le champ de bataille. Et dans les années 50, l'économie s'est grandement développée et on a eu besoin d'eux, si vous voulez. Donc ils étaient dans des communautés rurales. Il y avait 80% de maoris ruraux au début des années 50. Il y avait 80% de maoris urbains dans les années 70. Seulement, le processus de migration vers les villes s'est accompagné d'un processus de déculturation. Beaucoup de Maoris ont cru comprendre que pour réussir, il fallait surtout ne pas parler Maori. Beaucoup ont anglicisé leur nom, le nom de leurs enfants, et se sont adressés uniquement en anglais à leurs enfants. Donc, j'ai rencontré des Maoris à peu près qui avaient une quarantaine d'années, qui me disaient, voilà, moi j'ai appris le Maori à l'âge de 30 ans. Et quand j'étais enfant, on se réunissait au marae. Marae, c'est une halle communautaire, si vous voulez, c'est en bois, avec qui narre l'histoire de la tribu, avec des sculptures en bois qui vont raconter les exploits des chefs. Et ils me racontaient, voilà, les prières et les chants étaient en maori, mais il n'y avait que les personnes âgées qui le parlaient.
Et en effet, dans les années 70, vous l'écrivez, on a cru que la langue maori allait s'éteindre.
Oui, tout à fait.
Mais aujourd'hui, ce sont 30% de locuteurs sur l'île, et c'est grâce notamment à des programmes de revitalisation de la langue qui, visiblement, ont été assez efficaces. C'est intéressant d'essayer de comprendre dans quelle dynamique politique ont été mis en place ces programmes de revitalisation de la langue. Pour la Nouvelle-Zélande, vous l'écrivez, il y avait un enjeu d'image à sauver cette langue.
Oui, parce que en fait, tout le monde connaît les Maoris grâce au haka des All Blacks, qui est vraiment le porte-drapeau, si vous voulez, de la Nouvelle-Zélande dans le monde. Et une universitaire néo-zélandaise Maori me disait que ça aurait été vraiment extrêmement dommageable pour l'image de Nouvelle-Zélande si la langue Maori disparaissait. Donc dans les années 70, il y a eu un mouvement de revitalisation et le Maori est une langue assez fascinante. Beaucoup de Pakeha, si vous voulez, l'apprennent également. Beaucoup de jeunes néo-zélandais Pakeha peuvent tenir une conversation en Maori. Et donc la langue a été sauvée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un consensus, si vous voulez, dans les années 70, 80, 90, 2000. Il y avait un consensus entre la droite et la gauche, entre les Tories et le Labour néo-zélandais, pour aider les Maoris, si vous voulez, à surmonter le choc colonial et sortir de cette spirale inégalitaire et de reproduction, si vous voulez, de la misère. Et ce consensus a abouti à une série de réformes et de dispositifs pour les aider à sortir de cette situation.
Sauf que ce consensus-là, il est en train de s'éroder, et c'est tout récent. La nouvelle coalition au pouvoir portée par la droite conservatrice en alliance avec plusieurs partis est en train de remettre en question. De quelle manière très, très concrètement on peut peut-être citer par exemple le démantèlement de l'autorité de santé maori qui avait été mise en place après une longue mobilisation de plusieurs années et qui visait à essayer de corriger les inégalités en matière de santé.
Tout à fait. Alors, en 2005, les mouvements maoris, si vous voulez, ont mobilisé l'opinion et les autorités pour mettre en place une structure médicale, une autorité médicale qui puisse s'adresser spécifiquement aux maoris et les aider. Et il a fallu 20 ans pour mettre en place ces structures. Enfin, à peu près 20 ans. C'était mis en place en 2022. Seulement, la coalition au pouvoir, donc c'est le parti conservateur, plus l'ACT, l'association des contribuables et des taxpayers, des consommateurs et des contribuables, plus New Zealand First, a remis en question ce dispositif en disant, en substance, j'ai rencontré un député de ACT, qui me disait que, nous n'unions pas les statistiques, mais en tant que libéraux, nous sommes favorables à des services publics qui sont basés sur les besoins de tous les Néo-Zélandais et non pas sur leur lignée d'ancêtres. Et lui, il considère que que l'autorité de santé maori était un dispositif biased, race biased, et basé sur l'ethnicité. Et il réfutait le fait que ce dispositif puisse aider les Maoris. En disant, voilà, non, les faits, c'est de mettre en place un système
dual. C'est au nom d'une
dual.
Certaine égalité, si on comprend
oui,
bien le raisonnement.
Oui, c'est un argument libéral, on va dire. Mais ce que répondent les associations maoris, c'est que cet argument nie l'ampleur des statistiques et des fossés, si vous voulez, entre les populations. Ils ont même supprimé, enfin la coalition a supprimé un dispositif de dépistage précoce du cancer des côlons qui concernait les Maoris. Bon, pourquoi ? Sachant que les Maoris sont statistiquement beaucoup plus atteints par ce type de cancer. Et il y a une trentaine de mesures comme ça qui ont été éradiquées. Au nom de ces arguments libéraux.
Le gouvernement prévoit aussi la libéralisation des jeux d'argent qui sont déjà très accessibles, des casinos, des machines à sous, mais aussi les paris en ligne.
Pourquoi
est-ce que cette mesure en particulier inquiète les chefs maoris ?
Alors, c'est très très inquiétant parce que quand en Nouvelle-Zélande, à Auckland, à Wellington, il y a ce que vous appelez les pokies, c'est des petites salles de jeu où il y a des machines à sous. Vous passez la porte et il n'y a quasi exclusivement que des Maoris dans ces établissements. Et il y a un numéro d'appel, un numéro d'alerte, si vous voulez, pour les joueurs compulsifs. Il s'avère que la proportion de Maoris, plutôt de femmes Maoris qui appellent pour leur mari, en gros, absolument ahurissante. La plupart des joueurs compulsifs sont maoris. Ça a un impact social extrême. Et les maoris alertent depuis des années sur le fait que cette libéralisation, cette disponibilité, si vous voulez, des machines à sous, est une catastrophe sur le plan social pour leur communauté. Et ce gouvernement est en train de les mêmes arguments libéraux. C'est pas, je pense pas que ce soit pour enfoncer les Maoris. Je ne pense pas que ça parte de là. Mais ce gouvernement veut libéraliser encore plus ces jeux d'argent et rendre accessibles les casinos en ligne. Ce qui est absolument dramatique. Quand vous rencontrez les travailleurs sociaux Maoris, ils disent non, on ne peut pas faire ça. C'est extrêmement dommageable pour nous.
Quelle que soit l'intention du gouvernement, elle provoque l'inquiétude et la colère des Maoris, par exemple de Helmut Modlik, qui est un chef, on dit Ragantira, de la tribu des Ngatitoa.
Voilà.
Et lui fait remonter cette colère dans l'histoire. Il vous explique que les Maoris estiment avoir déjà été trahis par les Britanniques, qui n'auraient pas respecté leur parole lors de la signature du traité de Waitangi en 1840. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette accusation en trahison?
Alors, c'est très simple. En 1840, il y a à peu près 2000 colons britanniques sur les îles. Ils sont tolérés en tant que voisins par les Maoris. Bon, les relations sont parfois conflictuelles. Il y a aussi du troc, des échanges. Les Maoris sont contents d'avoir des clous, des mousquets, des haches, du métal. Pour améliorer leur mode de vie, mais ils sont également ulcérés par le comportement de certains colons britanniques. En face de Waitangi, il y a une petite ville portuaire sympathique aujourd'hui qui s'appelle Russell et qui était baptisée à l'époque le trou de l'enfer du Pacifique pour sa violence et sa prostitution. Donc, quand les Anglais, si vous voulez, proposent aux Maoris de signer un traité pour gérer leurs relations, les Maoris se disent, bon voilà, chacun va gouverner les siens. À savoir que les Maoris gouvernent les Maoris et les Anglais vont mettre un petit peu d'ordre chez leurs colons, les maîtriser et faire en sorte qu'ils arrêtent les vols, les meurtres, la violence, etc. Et dans l'esprit des Maoris, c'était très clair. Sauf que quand le traité est signé...
Très clair, c'est qu'ils n'entendaient pas céder sur leur souveraineté.
Voilà, c'était comme m'a raconté M. Modlik, Helmut, chacun gouverne les siens. Voilà, et nous, on reste indépendants, et les Anglais mettent un petit peu d'ordre dans leur communauté tapageuse. Sauf que le traité en deux langues, en anglais et en maori, et la version anglaise, on ne dit pas du tout ça, la version anglaise dit que la couronne britannique gouverne tous les habitants de Aotearoa, c'est-à-dire de la Nouvelle-Zélande. Et les
chefs maoris... Donc un traité et deux interprétations.
Un traité et deux interprétations.
Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ce traité du 6 février 1840, il fonde la nation.
Oui, tout à fait, c'est l'acte fondateur.
Néo-zélandaise, il est d'ailleurs commémoré, y compris
tous les 6 février,
par les Maoris, tous les 6 février.
Voilà.
Une importante commémoration dans la petite bourgade de
Waitangi. En présence du Premier ministre, des chefs Maoris.
Donc il est reconnu aussi.
Il est reconnu par les Maoris. Sauf que ce problème d'interprétation a engendré une dépossession, c'était le début de la dépossession coloniale, si vous voulez, parce que les Anglais, après, avaient une justification juridique pour prendre les terres. Il y a eu des batailles, il y a eu des guerres, des révoltes. Dans les années 1860, il y a des chefs de tribus qui se sont révoltés. Ils ont été écrasés par l'armée, mais aussi par des Maoris ralliés aux Britanniques. Et leurs terres ont été partagées entre les tribus alliées. Et aujourd'hui, ACT veut remettre en question ce traité.
Donc ACT, le parti des consommateurs et
voilà, le parti libéral, veut remettre en question ce traité au grand dam des Maoris en disant, voilà, c'est... On va faire en sorte que l'article 1, qu'il n'y ait plus de contestation sur le fait que l'article 1 du traité donne le droit de gouverner tous les Maoris. Et donc c'est une très grande inquiétude. Et
ce projet, il avait déclenché des grandes manifestations il y a tout juste un an, en 2024, vous le racontez dans l'article. 40 000 personnes à Wellington contre ce projet de révision du traité. Donc le gouvernement a dû faire machine arrière. Mais et qu'est-ce qu'on sait de ses intentions pour la suite de son mandat? Est-ce qu'il veut remettre ce projet à l'ordre du jour?
En avril dernier, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale néo-zélandaise qui a rejeté le projet de acte de révision. Et mais le acte, ce parti promet de revenir à la charge. Donc ce n'est pas terminé.
Et du côté de la mobilisation, est-ce que l'élan qui a été créé il y a un an est encore là chez les travailleurs sociaux, chez les chefs maoris que vous avez rencontrés? Vous sentez les gens
maori,
encore prêts à mobiliser?
Il y a des jeunes Pakeha qui manifestent avec eux. Après, il y aura des élections dans un an, donc peut-être que la roue va tourner, c'est possible.
Merci beaucoup Cédric Gouverneur. Votre reportage auprès des Maoris en Nouvelle-Zélande est à lire donc dans le dernier numéro du Monde Diplomatique, qui est en kiosque ce mois de septembre, et à lire en ligne sur le site du journal. Merci beaucoup d'être passé
Merci
dans le Retour
vous
de terrain.
Merci de votre invitation.
Maori, o tanga.
C'est en langue maori que la chanteuse néo-zélandaise Maise Rita rend hommage à Tangaroa, le dieu maori de la mer, et invite au respect des océans et à la préservation de la nature. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission, direction à présent Gaza.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Il y a des bombardements partout, partout. Le bruit que ça fait est vraiment fort, effrayant. Je ne supporte plus ça. Partout, à tout moment, il y a des bombardements. J'ai peur pour mes enfants. Ils sont ce que j'ai de plus précieux. C'est pour eux que je vais partir. On va partir maintenant. On va marcher, peut-être 6 ou 7 kilomètres. Je ne vais rien prendre avec moi. Je ne suis plus capable de porter quoi que ce soit en plus.
La situation est très difficile. Nous sommes bloqués chez nous, nous entendons le bruit des chars. Les enfants ont très peur, surtout la nuit. Nous détestons la nuit. Le bruit des chars est effrayant et celui des avions est terrifiant. Nous avons peur de sortir, peur d'être tués. Les chars encerclent la maison puis reviennent. Nous ne pouvons pas sortir.
Sur les images qui nous parviennent de Gaza depuis quelques jours, c'est un flot ininterrompu de camions, de voitures, de tuk-tuk, de charrettes tirées par des ânes ou poussées à la main et de personnes à pied. Des familles entassées entre matelas, couvertures, bidons, restes de mobilier, tout ce qui pourrait servir à la survie des jours à venir. Alors même que beaucoup ne savent pas où aller. Nous sommes partis avec seulement les vêtements que nous portions. Les enfants pleurent de faim et de peur et ils dorment à la belle étoile. Le ciel est notre seul toit, témoigne une habitante de Gazaville, citée par le journal israélien Haaretz. Combien sont-ils sur la route Al-Rachid qui longe la bande de Gaza du nord au sud le long de la mer? Combien sont-ils à être restés dans la ville où les tours s'effondrent sous l'effet des frappes des forces armées israéliennes, où les hôpitaux ne fonctionnent plus que partiellement, où les communications sont en partie coupées? Les conséquences de cette nouvelle opération militaire qui vise, je cite, à la défaite définitive du Hamas semblent déjà vertigineuses. Et c'est dans ce contexte que plusieurs États s'apprêtent à reconnaître l'État de Palestine d'ici quelques jours à l'ONU, tandis que la diplomatie mondiale s'active pour relancer la solution à deux États et que la Commission européenne envisage des sanctions contre Israël. De tout cela, on va discuter avec nos invités. Laetitia Bucaille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie politique à l'INALCO, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, le CESMA, et membre de l'Institut universitaire de France. Vous publiez le 15 octobre un ouvrage intitulé « Gaza, quel avenir ?» aux éditions Stock. Et à vos côtés, Khalil Alaham, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes juriste, chercheur postdoctoral à l'université de Bir Zeit en Cisjordanie. Votre thèse, soutenue en 2024, s'intitulait « La responsabilité de l'État pour violation systémique des droits de l'homme », une discussion co-animée comme chaque vendredi avec Marc Semo. Bonjour Marc.
Bonjour.
Notre partenaire du journal Le Monde, et on commence avec votre édito, Marc.
Oui, merci Mélanie. Alors comme tu le disais très bien, Gaza brûle, mais la diplomatie tente de faire entendre sa voix. Alors celle de la France notamment, qui redevient un peu audible au Moyen-Orient, surtout quand elle s'adosse à celle de l'Arabie Saoudite. Le vote le 12 septembre par l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une déclaration de New York pour une issue négociée de la guerre de Gaza excluant le Hamas et pour poser les bases d'une solution durable au conflit a fait un peu bouger les lignes. Lundi, comme tu le disais, Emmanuel Macron annoncera à New York lors d'une conférence co-présidée avec Riyad de la reconnaissance de l'État de Palestine. Il devrait être suivi par une dizaine d'autres capitales occidentales. Quelques 148 pays l'ont déjà fait depuis des années, y compris deux membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie. Mais cela n'entraînera donc pas de conséquences très concrètes sur le terrain. Reste que c'est un moment symbolique, fort, dans les deux sens du terme. Une dynamique diplomatique s'amorce, pour le moment très fragile. La Palestine est encore un État virtuel, au mieux en devenir, sans frontières reconnues, sans institutions politiques fonctionnelles, avec un territoire tronçonné par les colonies en Cisjordanie et totalement dévasté à Gaza. Le cadre de sortie de guerre esquissé à New York semble donc bien irréaliste, d'autant que l'administration Trump affiche toujours un soutien sans faille à la politique de Netanyahou. La déclaration de New York, votée par 142 pays contre 10, y compris votée par des amis habituels d'Israël comme l'Allemagne, a néanmoins le mérite de rappeler des fondamentaux. Depuis une condamnation sans équivoque des massacres de civils par le Hamas le 7 octobre, la réforme de l'autorité palestinienne à laquelle s'est engagé Mahmoud Abbas, le désarmement du Hamas et sa mise hors jeu politique, ainsi que celle de tous les groupes opposés à une solution à deux États. Alors ce texte aussi, et c'est un des points centraux pour l'avenir, évoque la création d'une mission de stabilisation sous l'égide de l'ONU, avec des forces arabes, les États-Unis, mais aussi européennes, afin de permettre la reconstruction, un défi d'une ampleur sans précédent vu l'état des destructions.
Merci beaucoup Marc Semon. On va venir à tous ces enjeux, mais je voudrais qu'on commence par prendre la mesure de ce qui se joue ces jours à Gaza. Khalil Al-Aham, peut-être essayer d'expliquer aux auditeurs dans quelles étaient déjà les conditions de vie dans Gaza City avant le début de l'opération en cours, dans quel état de précarité et de fragilité cette opération arrive.
Alors, la situation dans la ville de Gaza, mais dans la bande de Gaza, de façon générale, est une situation catastrophique. Les Palestiniens vivent dans des conditions d'extrême détresse et d'extrême violence. Ils se trouvent majoritairement à la rue. Il n'y a même pas une place pour planter une tente. Donc, c'est le témoignage qui était revenu plusieurs fois dans mes contacts avec plusieurs personnes. La question qui revient tout le temps, c'est fuir vers où ? Où fuir ? Donc, j'ai un médecin qui s'appelle Mohamed, c'est le journaliste qui s'appelle Mohamed, m'a dit que la mort est partout, m'a dit-il, à chaque minute. Quand je l'ai appelé, il venait d'apprendre la mort de son beau-frère, il s'appelait Raed. Un médecin qui s'appelle Iyad, il m'a dit que sa femme et sa fille ont été tuées dans une zone considérée sûre par l'armée israélienne. Donc, même quand l'armée israélienne dit à la population d'aller vers une zone qui est considérée comme une zone sûre, les bombardements continuent, donc des bombardements des aéronefs, des navires de guerre, des chars, les tirs de drones, mais également des robots volants qui tuent ces civils-là. Donc, c'est une question de mort, de peur, de traumatisme extrême. Le médecin Mohamed qui m'a parlé, il m'a dit qu'il a 4 filles et ils sont dans une situation traumatique extrêmement difficile. Il a parlé de l'une de ses filles qui a perdu la faculté de parole. Elle ne parle plus après la perte de sa mère. Et donc, vous imaginez ça à l'échelle de 2 millions de civils. C'est-à-dire, à chaque... j'ai contacté 4 personnes et les 4 personnes racontent un récit de mort des proches. Ce récit qui a été banalisé partout. Donc, la mort est partout dans la bande de Gaza.
Où fuir ? C'est une question qu'on voit revenir beaucoup dans les témoignages qui nous arrivent de Gazaville. 86,5% de Gaza est soumis à des ordres de déplacement ou à la militarisation, selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce qui pose effectivement la question de savoir où vont atterrir les gens qui aujourd'hui sont engagés sur la route Al-Rachid. Ces photos qu'on a vues, des convois, Laetitia Bucaï. Je ne vous demande pas où ils vont aller, mais peut-être un mot sur cette...
Mais effectivement, c'est une des caractéristiques de cette guerre depuis le début. C'est que, contrairement à la plupart des conflits armés, où souvent les civils ont la possibilité de fuir les combats et de se réfugier quelque part, que ce soit organisé par l'armée qui combat ou parce que le territoire le permet, depuis le début de cette guerre... Ce qui vraiment caractérise la situation des Gazaouis, c'est l'impossibilité d'échapper aux frappes. Et effectivement, même quand il y a des zones qui leur sont dédiées pour aller se réfugier, ils n'y sont pas en sécurité, ni sur le chemin qui mène à ces zones, ni même dans ces zones qui sont censées leur être dédiées. Alors, ce qu'a voulu aussi faire l'armée israélienne, ce que veut faire l'armée israélienne au moins depuis une année, c'est de pousser la population palestinienne dans des zones pour les attirer vers le sud. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que la Gaza Humanitarian Foundation opère dans le sud de la bande de Gaza.
Et c'est la fondation humanitaire qui a été mise en place par Israël.
Par Israël, qui est soutenue à la fois par Israël et par les Américains, qui est en fait une ONG créée toute pièce, qui n'a absolument aucune expérience en matière de distribution d'aide alimentaire, d'assistance à des populations en détresse, hein, et dont on sait qu'à chaque distribution, finalement, il y a des morts palestiniens qui viennent chercher de la nourriture. Donc l'idée d'Israël, c'est bien de réduire au maximum le territoire de Gaza, enfin le territoire où pourraient vivre les Palestiniens, de rendre cette vie impossible pour après, en fait, les forcer au départ.
C'est donc dans la région, la région côtière qui s'appelle Al-Mawasi, tout à côté de la mer, que se situent ces champs de tentes à perte de vue qu'on voit aussi sur cette photo.
Il faut rappeler aux auditeurs que déjà la densité de population dans la bande de Gaza est une des plus fortes au monde. C'est-à-dire que Gaza, c'est 40 km de long sur 10 de large au plus large, pour 2 200 000 personnes environ. Et donc, en fait, déjà, la population était serrée. Donc là, enfin, ça devient invivable. Les gens, effectivement, physiquement, très concrètement, ne savent pas où se mettre.
L'armée a donné 48 heures pour l'évacuation par les routes Al-Rachid et Salah Eddin qu'elle a ouvertes depuis mercredi. Ce délai expire aujourd'hui. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les gens qui sont encore dans Gaza City ne pourront plus en sortir, Khalila Alam.
Alors, ce qui se passe dans la Gaza City, dans la ville de Gaza, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans d'autres endroits, donc à Abet Laya et à Beit Hanoun, à Jabalia dans le nord, mais également dans le sud, notamment à Rafah. Donc, il y a un schéma qu'on a constaté dans les différentes opérations et à travers les différentes opérations militaires dans ces villes-là, et qui consiste à demander à la population de partir, de se déplacer. Et ensuite, il y a un bombardement massif et une destruction quasi totale des quartiers résidentiels. Donc, ça passe par une destruction par explosifs, placement des explosifs sur des zones urbaines pour les détruire et pour détruire tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc, ça suit également une politique adoptée par le gouvernement israélien. Donc, il faut rappeler que ce plan de l'occupation de la bande de Gaza, c'était un plan proposé par Benjamin Netanyahou en début de mois d'août à son gouvernement, qu'il a approuvé. Et qui consiste, donc, l'objectif affiché de ce plan, c'est de prendre un contrôle total sur la bande de Gaza. À la suite de l'adoption de ce plan, on a vu des déclarations. Donc, par exemple, il y a une information qui a été reliée par la chaîne israélienne Israël 24 qui rapporte le 18 août 2025, selon une source militaire israélienne, la volonté de l'armée israélienne de transformer Gaza en parking de voitures. Hier, le 17 septembre, il y a une déclaration du ministre israélien Smotrich qui a déclaré lors d'une conférence immobilière que les négociations ont déjà commencé avec les États-Unis concernant le partage du territoire de la bande de Gaza, qu'il a considéré comme une véritable aubaine immobilière. La volonté de détruire la bande de Gaza et de faire partir la population fait partie d'un ensemble de crimes de masse qui ont été documentés par les différents organes onusiens, notamment le crime de génocide, le crime de nettoyage ethnique et le crime contre l'humanité, et de violations massives des droits des Palestiniens qui sont également constitués des crimes de guerre. Donc on est face à des crimes de masse qui s'accumulent depuis 2 ans et qui s'inscrivent plus généralement dans un contexte colonial qui consiste à imposer une domination coloniale sur la population palestinienne partout dans le territoire occupé, mais également les Palestiniens qui sont titulaires de la nationalité israélienne, et empêcher les réfugiés palestiniens de retourner, qui a un droit garanti par le droit international. Les crimes de masse sont à toutes les échelles, et ce qui se pose actuellement, donc ce qu'on voit dans la vie, dans le concret de la vie de la population palestinienne, reflète une politique générale de l'État d'Israël de commettre ces crimes de masse, et on est toujours sidéré des réactions internationales qui ne sont pas à la hauteur de la situation.
Sur les plans du gouvernement vis-à-vis du futur de Gaza, Laetitia Bucaille, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Khalil Alam citait plusieurs déclarations. Le ministre Itamar Ben-Gvir, cette semaine, a aussi dit devant une école de police, nous allons achever la conquête de Gazaville, nous allons y construire un poste de police face à la mer. Mais en ce qui concerne des plans officiels, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui est prévu par le gouvernement?
En fait, il n'y a pas de plan officiel, ou en tout cas, il n'est pas divulgué. C'est quand même en fait un certain flou qui caractérise tout ça. C'est aussi un des motifs pour lesquels une partie de la population israélienne s'insurge contre la continuation de cette guerre. C'est qu'en fait, ils ne savent pas exactement quel est l'objectif de cette guerre, si ce n'est les objectifs énoncés par l'extrême droite israélienne qui veut conquérir l'ensemble de Gaza, recoloniser Gaza et chasser les Palestiniens.
Il y a aussi l'objectif militaire qui est dit depuis le début de l'élimination du Hamas, et d'ailleurs l'offensive sur Gaza-ville se fait au nom, je reprends l'argumentaire du chef d'état-major, de l'élimination des derniers bastions du Hamas.
Effectivement, ça c'est un objectif qui faisait consensus dans la société israélienne. Éliminer le Hamas, détruire le Hamas. Alors, cela dit, il y a toujours eu quand même débat. Un certain nombre de militaires israéliens ont toujours souligné le fait que détruire complètement le Hamas était illusoire, qu'il fallait détruire ses capacités militaires, mais que le détruire entièrement n'était pas possible. Cela dit, c'est quelque chose qui fait consensus dans la société israélienne. En revanche, l'occupation à long terme de Gaza et la recolonisation de Gaza, c'est quelque chose qui est très contesté par une partie de la société israélienne. Mais Netanyahou maintient un certain flou sur les objectifs de cette guerre. Ce qu'on lui prête, c'est de vouloir rester au pouvoir et puis finalement de s'accommoder tout à fait des projets de la droite suprémaciste israélienne.
Marc Semo.
Vous soulignez tout à l'heure justement que les Palestiniens de Gaza n'avaient pas où fuir. Est-ce que la position de l'Égypte de fermeture de la frontière quasiment absolue, sauf pour quelques cas très graves de blessés, etc., est tenable à long terme, ou que, petit à petit, notamment sous les pressions des États-Unis, l'Égypte devra entrouvrir la frontière, voire l'ouvrir plus? Et deuxièmement, est-ce qu'il est imaginable aussi qu'il y ait des évacuations par bateau?
Je crois que tout devient imaginable aujourd'hui, mais je pense que l'Égypte va rester assez ferme sur le fait de ne pas accueillir de Palestiniens, parce que en fait il faut pas oublier que en fait tout le monde arabe, tous les pays arabes sont un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accueillir de Palestiniens, d'abord parce qu'ils seraient dénoncés comme des complices du projet sioniste, du projet israélien. Donc ils ne veulent pas apparaître comme ça. Ça, c'est une question quand même vis-à-vis de leur opinion publique. C'est des dictatures, mais enfin, ils se soucient quand même un petit peu de ce que pense leur population. On sait combien la cause palestinienne compte pour ces sociétés arabes et même au-delà du monde arabe. C'est la première question. Puis la deuxième, le deuxième chose qui les retient, c'est que les Palestiniens ont une grande culture politique, une grande expérience de l'activisme politique. Ils n'ont pas du tout envie de se retrouver avec des Palestiniens qui sont chez eux actifs, qui parlent, qui prennent la parole, etc. Donc il y a plusieurs raisons pour pas recevoir les Palestiniens, et c'est pas que l'Égypte, la Jordanie est sur la même longueur d'onde. Il faut voir aujourd'hui comment les Palestiniens sont traités en Égypte, ils sont quand même très très mal traités.
Il y aura des très fortes pressions américaines.
Ouais. Enfin, ils essayent. En même temps, ce qu'on voit, c'est que les Américains et les Israéliens essayent aussi de convaincre d'autres pays, la Libye, le Sud-Soudan, l'Indonésie. Ça, c'est quand même, là, le bas blesse dans le projet israélo-américain pour chasser la population gazaouie de son territoire. Le problème, c'est qui veut de ces Palestiniens de Gaza? Il n'y a pas grand monde qui est prêt à les accueillir, en tout cas en grand nombre.
Sur le territoire gazaoui, ce sont 80% des bâtiments détruits, des infrastructures d'eau et d'assainissement inopérantes, des terres agricoles contaminées ou inutilisables. C'est peut-être une question naïve, mais est-ce que Gaza est reconstructible?
C'est-à-dire, vous avez mentionné les chiffres, la situation est catastrophique. Qu'est-ce qu'on est capable de construire et reconstruire? Mais est-ce que aussi vivre en Cisjordanie, c'est aussi possible dans le contexte où il y a des colonies partout dans la Cisjordanie? Oui, c'est reconstructible. S'il y a une volonté politique de reconstruire Gaza, ce serait tout à fait possible, et ce serait tout à fait possible que les Palestiniens restent dans la bande de Gaza. Donc le projet sioniste, au départ, c'est un projet de nettoyage ethnique qui passe par à la fois des phases de banalisation, qui passe à travers l'adoption des dispositifs administratifs, des dispositifs légaux, qui rendent la vie impossible aux Palestiniens, à la fois dans la bande de Gaza ou dans la Cisjordanie. Il ne faut pas oublier que la population de la bande de Gaza était sous blocus pendant 17 ou 18 ans. La population dans la Cisjordanie, aujourd'hui, il existe plus de 900 checkpoints entre les villes et les villages palestiniens, ce qui est considéré comme une forme de prison à ciel ouvert. La situation matérielle est très, très difficile, mais l'existence d'une volonté politique de permettre au peuple palestinien de jouir de son droit à l'autodétermination permet de rendre les choses faisables. Mais cela nécessite une action internationale à une échelle de l'ONU et à l'échelle de l'Union européenne et des États-Unis. Et ça nécessite des actions concrètes pour reconstruire Gaza. Et quand on parle de la reconstruction de Gaza, il y a eu 5 guerres qui ont détruit des parties, d'une grande partie des bâtiments dans la bande de Gaza. Et à chaque fois, ce n'est pas Israël qui reconstruit ces bâtiments et la destruction. Il y a des États tiers, notamment les États de Golfe, qui viennent reconstruire Gaza. Mais en fait, il faut peut-être lever cette impunité de l'État israélien pour que ces violations des droits des Palestiniens et ces crimes de masse cesse. Et pour cela, il faut que Israël assume les responsabilités de la destruction de la bande de Gaza et répare à la fois les préjudices matériels, le préjudice matériel et le préjudice moral que les victimes palestiniennes ont subi. Donc il y a à la fois une responsabilité de l'État d'Israël de reconstruire en tant que conséquence tout à fait naturelle en droit international, c'est lui qui cause un préjudice à un État ou à un ensemble de populations, le répare, et il appartient à l'État d'Israël de réparer la destruction qui a été faite dans la bande de Gaza et non pas aux États tiers. Et il faut, à côté de cela, bien évidemment, engager une action pénale pour juger les responsables et les dirigeants israéliens qui ont commis ces atrocités.
Vous disiez que les choses se jouent désormais à l'international. Et justement, cette semaine, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le 12 septembre, une résolution a été adoptée, une déclaration qui réaffirme la solution à deux États, sans le Hamas qui devra être désarmé et qui propose une feuille de route. Est-ce que cette feuille de route, Laetitia Bucaille, dessine selon vous une voie pour sortir de la guerre, pour la reconstruction, pour un futur possible ?
Alors, la feuille de route évoque notamment la réforme de l'autorité palestinienne. Alors, d'une certaine façon, c'est toujours un peu savoureux, cette insistance sur la réforme de l'autorité palestinienne. Alors, bien sûr, l'autorité palestinienne dysfonctionne, n'apporte absolument pas de satisfaction à ses administrés. Mais, enfin, il faut quand même rappeler la première raison pour laquelle elle dysfonctionne, c'est qu'en fait, elle n'a pas de pouvoir. Et le pouvoir lui est concédé par Israël. Donc, à partir du moment où cette autorité palestinienne est contenue, phagocytée par le pouvoir politique et militaire israélien, elle ne peut pas fonctionner correctement. Et je rappelle aussi que la communauté internationale est mémoire un peu courte, puisque, en fait, c'est les élections de 2006 qui ont été remportées par le Hamas ont été organisées sous pression de la communauté internationale qui, déjà à l'époque, à la fin du règne d'Arafat, poussait les Palestiniens à réformer l'autorité palestinienne, à adopter des normes de bonne gouvernance. Alors, bon, c'est pourquoi pas, hein, mais c'est quand même pas le problème principal. C'est-à-dire qu'on peut pas exiger de l'entité palestinienne d'être une démocratie qui fonctionne correctement alors qu'il n'existe pas de souveraineté. C'est quand même une impossibilité.
Maximo.
Et sur ce point concret, est-ce que la reconnaissance par la France et quelques autres États, qui en plus, pour d'autres, notamment la Belgique, va être conditionnelle, peut changer quelque chose ?
Qu'on attend donc pour lundi prochain.
Bah, sur le terrain, on sait bien que ça ne va pas changer les choses, parce qu'Israël reste maître du territoire, et que, d'ailleurs, plusieurs ministres l'ont affirmé, le ministre des Affaires étrangères israélien l'a affirmé, en disant, reconnaissez un État palestinien, mais nous, sur le terrain, nous développons les colonies, et nous allons annexer. Bon, alors déjà, il faudrait peut-être espérer un changement de gouvernement en Israël pour imaginer une autre politique.
Les prochaines élections en Israël sont prévues législatives dans un an, en octobre 2026.
Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, et notamment sur le terrain, sur le mode des faits accomplis. Mais là, on voit bien, il y a une des constructions de colonies qui séparent Jérusalem du reste de la Cisjordanie et qui empêchent hein, très, très concrètement. C'est-à-dire que ce que Khalil évoquait sur les checkpoints sont donc à l'intérieur de la Cisjordanie. Ça n'empêche pas seulement les Cisjordaniens de partir à l'extérieur de la Cisjordanie, ça les empêche de circuler à l'intérieur de villes qui sont censées être autonomes. C'est-à-dire que si vous habitez à Bethléem et que vous travaillez à Ramallah, eh bien possiblement vous ne pouvez pas y aller 3 jours par semaine, voire toute la semaine.
À défaut de changer les choses concrètement sur le terrain, ce processus diplomatique, y compris la question de la reconnaissance de l'État de Palestine, Khalil Al-Aham, est-ce qu'il peut enclencher une dynamique pour... Parce que puisque vous le disiez tout à l'heure, c'est au niveau international que les choses, à un moment, devront se jouer. Donc voilà, encore une fois, à défaut de changer les choses concrètement, est-ce que ça peut impulser une dynamique ?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire la reconnaissance en soi, personne ne critique la reconnaissance, mais il y a des conditions de cette reconnaissance. Tout d'abord, cette reconnaissance attardée, la France était parmi les derniers États qui ont reconnu cet État de Palestine. Et il y a déjà 148 États qui ont reconnu l'État de Palestine, et l'État de Palestine, sur le plan légal et formel, elle est déjà un État, donc c'est indiscutable. Ce qui est un peu dérangeant dans ce sommet de New York prévu le 22 septembre, c'est de présenter la reconnaissance comme une réaction ou comme une conséquence de la guerre. Et là, on peut voir qu'il y a une sorte d'équation diplomatique qui est biaisée. Donc, est-ce que la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est la conséquence juridique que les États occidentaux dans la France tirent des crimes de masse qui ont été commis à Gaza? Donc, ce sorte de marchandage à la paix me dérange. Donc, cette reconnaissance est une étape vers une effectivité de droit d'implantation de droits de peuple palestinien à l'autodétermination, le démantèlement d'une machine opprimante, une machine de mort qui opprime et déshumanise à la fois les Israéliens et les Palestiniens. Il faut savoir que les Israéliens, à partir de l'âge de 18 ans, ils sont obligés, les hommes, de faire un service militaire obligatoire de 2 ans et 8 mois, pour les femmes pendant 2 ans. Et enfin, c'était le début de la vie d'un adulte israélien, commence par des exactions et par des mauvais traitements à l'égard et à l'encontre des Palestiniens. Donc, le système éducatif israélien est un système éducatif qui est fondé à l'infériorisation de la Palestinien et à présenter le Palestinien comme la figure de l'autre. Et donc, il y a toute une structure de l'oppression et de domination qui est imprégnée à l'intérieur de la société israélienne. Donc, si cette reconnaissance est une étape pour le démantèlement de cette machine de mort et à construire un véritable paix, pourquoi pas ?
Cette question de l'autodétermination, Laetitia Bucaille, dans les réflexions que vous avez en ce moment pour l'écriture de votre livre sur l'avenir de Gaza, est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous avez planché et cette autodétermination, à quelles conditions peut-elle advenir ? Est-ce que c'est ça la clé d'un État réel et pas simplement symbolique ?
L'autodétermination, je dirais que cette question, elle est déjà réglée, parce que quels sont les Palestiniens qui refuseraient un État palestinien ? Alors après, on peut discuter des frontières. Tout le monde n'imagine pas l'État palestinien de la même manière. Mais la question de l'autodétermination, elle est très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus sur la volonté... que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien.
Sur l'aspiration, oui, mais sur les conditions de son
advenir. Après, la question qui se pose, enfin, ce qui est aussi pointé avec cette reconnaissance de l'État palestinien et cette insistance que les États du Golfe et les États européens ont à rappeler la solution à 2 États, comme on le formule, c'est l'impossibilité en fait de créer un État palestinien sur un territoire complètement morcelé, une peau de léopard en Cisjordanie, la bande de Gaza et la Cisjordanie qui sont séparées par Israël. Comment cet État pourrait exister ? Donc certains, d'ailleurs palestiniens en Cisjordanie, ont souligné déjà qu'en fait c'était plus possible. C'est-à-dire que l'époque où on pouvait imaginer cette solution à 2 États, c'est refermé du fait de la colonisation, du fait de cette intrication entre les populations israéliennes et palestiniennes. Donc alors,
ça veut dire quoi? Alors que s'ouvre la possibilité, enfin la réflexion sur un État binational, un seul État pour deux peuples.
Alors cette réflexion était effectivement assez poussée du côté palestinien, surtout en Cisjordanie avant le 7 octobre, hein, avec cette idée, allez-y, continuez la colonisation. Annexez-nous, et puis nous poursuivrons la lutte par d'autres moyens, à savoir l'égalité des droits. C'est-à-dire que c'était finalement rentrer dans la logique israélienne et la pousser à son terme. Et dire voilà, finalement, ce qui se passera. Alors évidemment, le 7 octobre et la guerre de destruction qui s'en suivent rebat un peu les cartes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les uns et les autres, et les Palestiniens de Cisjordanie sentent très bien les conséquences du 7 octobre, puisqu'ils sont plus que jamais contrôlés, agressés par les colons. Donc l'idée de partager un même État devient effectivement difficile. On a mis ça séparé. Il y a aussi un autre projet qui s'appelle Deux États, une nation, qui en fait imagine une sorte de à la fois de séparation, mais aussi de parapluie qui permettrait en fait de gérer un certain nombre de questions qui sont communes, comme l'eau, comme l'environnement, comme la sécurité, qui pourraient être gérées par une sorte de système confédéral, qui permettrait aussi aux uns et aux autres de circuler. Mais il faut qu'il y ait un climat d'acceptation de part et d'autre pour imaginer ce genre de solution.
Mais justement, sur ce point, est-ce qu'on peut imaginer, qui est évoqué dans la déclaration de New York et qui est une petite musique qui monte, celle d'un espèce de protectorat international? Alors, le pilier, on serait l'Arabie Saoudite et les États golfiques, de préférence en mettant les États-Unis dans le coup, ce qui est loin d'être acquis. Les Européens pourraient jouer un rôle, mais qui permettrait, disons, justement, d'amorcer ce processus de transition et qui permettrait de sécuriser Gaza, de commencer la reconstruction, y compris institutionnelle, et de lancer une dynamique.
Oui, enfin, c'est un scénario tout à fait plausible, dans la mesure où ça permet de garantir aux Israéliens que finalement, il n'y a pas d'entité palestinienne à part entière. Ils sont pris en charge par des États arabes en lesquels les Israéliens auraient confiance. Et donc, ça permet en même temps, effectivement, d'envisager un avenir, un protectorat qui déboucherait sur une entité palestinienne souveraine. Alors après, quand même, le problème qui va se poser, c'est toute l'articulation, enfin c'est la mise en place de cette architecture, parce que les Israéliens vont sans doute continuer à revendiquer le droit le plus absolu d'intervenir s'ils estiment qu'il y a une menace militaire. Donc comment faire fonctionner des forces saoudiennes avec quand même une armée israélienne qui se réserve le droit peut-être de bombarder, de mener des frappes, etc. C'est une architecture quand même
Sauf qu'en même temps, les forces israéliennes ont l'air de bien s'entendre avec les Émiratis, par exemple.
Enfin, si on leur tape dessus, c'est plus compliqué. Quand même.
Khalil Alam.
Alors, je veux réagir à ce qu'a dit Laetitia Bucaille, justement, sur la difficulté de créer un État ou d'imaginer ce territoire et la Palestine autrement. Je pense que le gouvernement israélien a créé une politique de fait accompli et depuis très longtemps pour imposer un système d'oppression et écarter même l'existence ou l'imagination d'un État palestinien. Et j'aimerais donner quelques éléments historiques. Le projet politique de l'OLP, de l'Organisation de Libération de la Palestine, a acté lors de son conseil national au Caire en 74 le plan des étapes. Une première étape, c'était consister à créer un État palestinien sur une partie, donc je cite, une partie libérée de la Palestine. Et ensuite, l'horizon politique de ce plan des étapes, c'est de créer un État démocratique pour toute sa population. Donc la population juive, musulman, chrétien, et laïque, etc. Donc ce projet de créer un État démocratique sur l'ensemble de la frontière de la Palestine mandataire, qui compris aujourd'hui Israël et le territoire occupé, est un projet assez ancien. Et donc il y a beaucoup de littérature là-dessus. À côté de ce projet, l'arrivée de Likoud pour la première fois au pouvoir en 77 en Israël, a acté l'adoption de ce qu'on appelle le plan d'autonomie, et qui consiste à une autonomie administrative. Donc, au départ, ça c'était le plan de Likoud, mais il est devenu le projet des différents gouvernements israéliens successifs, qui est devenu également le projet de parti travailliste. Donc, l'ensemble, toutes les pratiques israéliennes sont fondées sur l'empêchement et l'entrave de la création d'un État palestinien. Et c'est ça qu'il faut combattre, et c'est ça qui peut permettre au peuple palestinien d'accéder à leur droit à l'autodétermination.
Il me reste une petite minute pour évoquer le dessin de presse de notre partenaire Cartooning for Peace, qui est signé aujourd'hui du caricaturiste algérien Dilem, et qui dénonce dans ce dessin l'impossible évacuation de la ville de Gaza. Nous sommes au milieu des décombres, on y voit une famille chargée de valises et de baluchons. Regardez avec étonnement un grand panneau censé être un plan d'évacuation. Un beau cadre rouge, mais au milieu, rien, le vide, car le panneau n'est qu'un cadre transparent offrant une vue sur les gravats et les morceaux de béton cassés et éparpillés. Aucune indication pour la famille, mais le réel d'un plan à l'échelle 1.1. C'est un dessin à découvrir sur le fil Blue Sky de Culture Monde et sur la page internet de l'émission.
Il fait le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux !
Assis !
Alors, c'est la musique qui devait partir puisque l'émission touche à sa fin, mais on a entendu. Le chanteur palestinien Mohamed Assaf, qui a grandi dans le camp de réfugiés de Khan Younes, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour la paix par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Merci beaucoup à nos deux invités, Laetitia Bucaille, je rappelle, professeure de sociologie politique à l'INALCO, chercheuse au CESMA et membre de l'Institut universitaire de France. Votre ouvrage, Gaza, quel avenir, est à paraître aux éditions Stock le 15 octobre. Merci beaucoup, Khalil Alam, je rappelle, juriste, chercheur postdoctoral à l'université de Birzeit. Merci Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée à la cartographie des méridiens au planisphère. Nous raconterons comment fut inventé le centre du monde et ses marges. Il sera question des nouveaux apports de la géographie numérique au renseignement, de la délicate cartographie de l'actualité dans les médias et du monopole de Google Maps. Et dans un instant, les Midi de Culture. Merci.